En septembre 2013, presque exactement 35 ans après le meurtre de John Rothstein, Pete glissa les derniers billets de l'argent mystère dans une enveloppe adressée à son père. Le dernier versement s'élevait à 340 $. Et parce qu'il trouvait cruel d'entretenir un espoir qui ne se réaliserait jamais, il ajouta un mot d'une ligne. « C'est fini. Je suis désolé qu'il n'y en ait plus. » Il prit un bus pour le centre commercial de Birch Hill, où il y avait une boîte aux lettres entre le Discount Electronics et les yaourts glacés. Il regarda autour de lui pour s'assurer que personne ne l'observait et porta l'enveloppe à ses lèvres pour y déposer un baiser. Puis il la glissa dans la fente et s'éloigna. À la Jimmy Gold, sans se retourner. Une semaine ou deux après le nouvel an, Pete était en train de se faire un sandwich beurre de cacahuète et confiture dans la cuisine quand il entendit ses parents parler à Tina dans le salon. C'était à propos de Chapel Ridge.
« Je pensais que peut-être on aurait pu te l'offrir, » disait son père. « Si je t'ai donné de faux espoirs, j'en suis vraiment désolé, Tini. »«
C'est parce qu'on reçoit plus d'argent mystère ?» dit Tina. « C'est ça ?»«
En partie, mais pas seulement, » lui répondit maman. « Papa a demandé un prêt, mais on le lui a refusé. Ils ont examiné les comptes de son entreprise et établi
un prévisionnel sur 2 ans, » poursuivit papa.
Un relent d'amertume post-accident s'insinua dans sa voix.
« Beaucoup de compliments parce que c'est gratuit. Ils ont dit qu'ils seraient peut-être en mesure de m'accorder un prêt en 2016 si mon chiffre d'affaires augmente de 5%. En attendant, foutu vortex polaire, on est bien au-dessus du budget de ta mère pour le chauffage. Tout le monde l'est, du Maine au Minnesota. Je sais que c'est une piètre consolation, mais voilà.
Ma chérie, on est tellement, tellement désolé, dit maman.
Pete s'attendait à ce que Tina pique une colère monstre, ce qui lui arrivait de plus en plus fréquemment maintenant qu'elle approchait des 13 ans fatidiques, mais non. Elle leur dit qu'elle comprenait, et que Chapel Ridge était probablement un établissement de snob de toute façon. Puis elle vint dans la cuisine et demanda à Pete s'il voulait bien lui faire un sandwich. Le sien avait l'air bon. Ce qu'il fit. Puis ils retournèrent au salon, où ils regardèrent la télé tous ensemble et rirent un peu devant The Big Bang Theory. Mais plus tard ce soir-là, Pete entendit Tina pleurer derrière la porte fermée de sa chambre et il se sentit terriblement mal. Il alla dans sa propre chambre, sortit un Moleskine de sous son matelas et se mit à relire « Le coureur part vers l'ouest ». Pete était en cours d'écriture créative avec Madame Davis ce semestre-là, et il avait beau avoir des A à toutes ses rédactions, il avait su dès le mois de février qu'il ne serait jamais un auteur de fiction. Il était doué pour les mots, mais il y avait une chose que Madame Davis n'avait pas besoin de lui dire, même si elle le lui disait souvent. Il ne possédait tout simplement pas ce qu'il fallait d'étincelles créatives. Son aspiration principale, c'était de lire de la fiction, puis d'essayer d'analyser ce qu'il avait lu, en l'intégrant à un contexte plus vaste. Il avait pris goût à ce genre de travail d'investigation en écrivant son devoir de fin d'année sur Rothstein. À la bibliothèque où il travaillait, il avait réussi à dénicher l'un des livres que M. Ricoeur avait mentionné, « Amour et mort dans le roman américain » de Fiedler. Et il l'avait tellement aimé qu'il s'était acheté son propre exemplaire pour pouvoir surligner certains passages et écrire dans les marges. Il voulait plus que jamais faire des études de lettres, enseigner comme M. Ricoeur, mais peut-être à l'université plutôt qu'au lycée, et écrire un jour un livre comme celui de M. Fiedler, s'opposant aux critiques plus conventionnelles et remettant en question les idées préconçues de ces mêmes critiques. Et pourtant, il fallait plus d'argent. M. Feldman, le conseiller d'orientation, lui avait dit qu'il était assez peu probable qu'il obtienne une bourse couvrant tous les frais de scolarité pour une université de l'Ivy League. Et Pete savait que même ça, c'était un euphémisme. Il n'était qu'un blanc-bec de lycéen parmi d'autres, venant d'une école moyenne du Midwest. Un gamin bossant à mi-temps dans une bibliothèque et engagé dans des activités extrascolaires peu glamour, comme le journal du lycée et l'album de promo. Et même s'il réussissait à obtenir une bourse, il y avait Tina à prendre en considération. Elle ramait en classe maintenant. n'avait quasiment plus que des B et des C, et semblait plus intéressée par le maquillage, les chaussures et la musique pop que par les cours. Elle avait besoin d'un changement, d'un nouveau départ. Pete était suffisamment réaliste, même à pas tout à fait 17 ans, pour savoir que Chapel Ridge n'arrangerait peut-être pas tout. Mais d'un autre côté, c'était toujours possible. Surtout qu'elle n'était pas totalement au fond du trou. Du moins, pas encore. « Il me faut un plan », pensa-t-il. Sauf que c'était pas exactement ça dont il avait besoin. Ce dont il avait besoin, c'était d'une histoire. Et même s'il ne deviendrait jamais un grand écrivain de fiction, comme John Rothstein ou D.H. Lawrence, il était tout à fait capable de construire une intrigue. C'était ça qu'il devait faire maintenant. Seulement voilà, toute intrigue reposait sur une idée. Et de ce côté-là, il continuait à sécher. Il avait commencé à passer beaucoup de temps chez Water Street Books, où le café était pas cher et même les livres de poche neufs étaient 30% moins chers qu'ailleurs. Il s'y arrêta par une après-midi de mars, en chemin pour son boulot à la bibliothèque, se disant qu'il pourrait peut-être prendre un Joseph Conrad. Dans l'une de ses rares interviews, Rothstein avait qualifié Conrad de premier grand écrivain du XXe siècle, même si ses meilleurs romans avaient été écrits avant 1900. Devant la librairie, une grande table avait été installée sous un auvent. « Nettoyage de printemps », disait la pancarte. « Toute la table à moins 70%. » Et en dessous, « Qui sait quel trésor vous allez exhumer ?» Cette dernière ligne était flanquée de gros smileys jaunes pour montrer que c'était une plaisanterie. Mais Pete ne trouva pas ça drôle. Il tenait enfin son idée. Une semaine plus tard, il resta après les cours pour parler à M. Ricoeur.
Content de te voir, Pete. Aujourd'hui, M. Ricoeur portait une chemise à motif cachemire à manches évasées et une cravate psychédélique.
Pete trouvait que la combinaison des deux en disait long sur les raisons de la débâcle de la génération Peace and Love.
Madame Davis n'a que des éloges pour toi.
Elle est bien, dit Pete. J'apprends beaucoup.
C'était faux. Et Pete soupçonnait tous les élèves de son cours d'être dans le même cas.
Elle était assez sympa, et elle avait souvent des choses intéressantes à dire, mais Pete en était venu à la conclusion que l'écriture créative, ça ne s'enseigne pas, ça s'apprend seulement.
Que puis-je faire pour toi?
Vous vous souvenez quand vous avez parlé de la valeur que pourrait avoir un manuscrit holographe de Shakespeare?
Monsieur Ricoeur lui adressa un large sourire.
Je parle toujours de ça en milieu de semaine, quand la classe commence à s'endormir. Rien de tel qu'un peu de cupidité pour réveiller l'intérêt des jeunes. Pourquoi? Tu as trouvé un folio, Malvolio?
Pete sourit poliment.
Non, mais quand j'étais chez mon oncle Phil à Cleveland, pendant les vacances de février, j'ai trouvé tout un tas de vieux livres dans son garage, surtout des Tom Swift. Vous savez, l'enfant inventeur.
Je me souviens bien de Tom et de son ami Ned Newton, dit M. Ricoeur. Tom Swift et sa mobilette. Tom Swift et son appareil photo sorcier. Quand j'étais gosse, on plaisantait souvent sur Tom Swift et sa grand-mère électrique.
Pete réitéra son sourire poli.
Il y en avait aussi une dizaine sur une fille détective, Trixie Belden, et une autre qui s'appelle Nancy Drew.
Je crois savoir où tu vas en venir avec tout ça. Et je déteste te décevoir, mais il le faut. Tom Swift, Nancy Drew, les frères Hardy, Trixie Belden, tous de très intéressants vestiges d'une époque révolue. Et de merveilleux indicateurs nous permettant de juger à quel point la littérature jeunesse a changé au cours des 80 dernières années. Mais ces livres ont très peu de valeur, voire aucune marchande, même trouvés dans un excellent état.
Je sais, dit Pete. J'ai vérifié sur Fine Books après. C'est un blog. Mais quand j'étais en train de jeter un coup d'œil à tous ces livres, mon oncle est venu me voir dans le garage pour me dire qu'il avait quelque chose qui pourrait encore plus m'intéresser, parce que je lui avais dit que j'étais fan de John Rothstein. C'était un exemplaire relié et signé du coureur. Pas dédicacé, juste signé. Oncle Phil m'a dit qu'un copain à lui, Al, le lui avait donné en paiement des $10 qu'il lui devait pour une partie de poker. Mon oncle m'a dit qu'il l'avait depuis presque 50 ans. J'ai regardé la page de copyright, et c'est une édition originale.
M. Ricoeur, jusque-là renversé dans son fauteuil, se redressa d'un bond.
« Waouh !
Tu sais certainement que Rothstein signait très peu d'autographes, hein ?»«
Oui, » répondit Pete.
Il appelait ça « défigurer un livre parfaitement bien fait ».
Exact. Il était comme Raymond Chandler pour ça. Et tu sais aussi que les volumes signés ont plus de valeur quand il n'y a que la signature, sans dédicace.
Oui, c'est ce qu'ils disent sur Fine Books.
Une édition originale signée du plus célèbre des romans de Rothstein, ça, ça vaut probablement de l'argent.
Monsieur Ricoeur réfléchit.
Réflexion faite, retire-le probablement.
Dans quel état est-il ?
En bon état, répondit Pete promptement. Un peu de piqûre, comme disent les collectionneurs sur le rabat de la couverture et la page de titre, mais c'est tout.
Tu t'es bien renseigné sur le sujet, dis-moi.
Un peu plus depuis que mon oncle m'a montré le Rothstein.
Et je suppose que tu n'es pas en possession de ce livre fabuleux, n'est-ce pas ?
Je suis en possession de bien mieux, pensa Pete, si seulement tu savais. Parfois, il ressentait le poids de ce secret. Aujourd'hui, en débitant ses mensonges, plus que jamais.
Des mensonges nécessaires, se rappela Pete. Non, mais mon oncle m'a dit qu'il me le donnait si je voulais.
Je lui ai dit que j'allais y réfléchir parce qu'il n'a pas...
Enfin, vous voyez.
Il n'a aucune idée de la valeur réelle que ça pourrait avoir.
Ouais, et puis j'ai pensé à un truc.
Dis-moi. Pete plongea la main dans sa poche arrière et en sortit un bout de papier plié qu'il tendit à M. Ricoeur.
J'ai cherché sur Internet des libraires qui achètent et qui vendent des éditions originales, ici en ville, et j'ai trouvé ces trois-là. Je sais que vous êtes un peu collectionneur vous-même.
Bien peu, mon salaire ne me le permet pas vraiment. Mais j'ai un Theodore Röttke signé, que j'ai l'intention de léguer à mes enfants.
The Waking, de très beaux poèmes.
Un Vonnegut aussi, mais ça ne vaut pas énormément. Contrairement à Rothstein, le père Kurt signait tout.
Quoi qu'il en soit, je me demandais si vous les connaissiez et si vous pouviez me dire lequel serait le mieux, si je décidais d'accepter le livre, et puis, ben, de le vendre.
Monsieur Ricoeur déplia le bout de papier, y jeta un coup d'œil, puis regarda à nouveau Pete. Ce regard, à la fois perçant et compatissant, mit Pete mal à l'aise. C'était peut-être une mauvaise idée. Il n'était décidément pas très bon en fiction. Mais maintenant qu'il s'était mis dedans, il allait devoir se dépêtrer de ce bourbier d'une manière ou d'une autre.
« Il se trouve que je les connais tous les trois. Mais bon sang, petit, je connais aussi ton amour pour Rothstein. Et je ne me base pas seulement sur ton devoir de l'année dernière. Annie Davis dit que tu fais souvent référence à lui en cours d'écriture créative. Elle prétend que la trilogie Gold est ta Bible. »
Pete supposait que c'était vrai. Mais il n'avait pas réalisé jusqu'à maintenant qu'il avait été trop bavard. Il résolut d'arrêter de parler autant de Rothstein. Ça pourrait être dangereux. Les gens pourraient s'en souvenir si... Si...
C'est bien d'avoir des héros littéraires, Pete. Surtout si tu as l'intention de faire des études de lettres. Le tien, c'est Rothstein, du moins pour l'instant. Et ce livre pourrait être le premier de ta bibliothèque. Tu es sûr de vouloir t'en défaire ?
Pete pouvait répondre à cette question en toute honnêteté, même si ce n'était pas vraiment d'un livre signé qu'il parlait.
« J'en suis sûr, oui. Les choses n'ont pas été très faciles à la maison.
Je suis au courant pour ce qui est arrivé à ton père au City Center. J'en suis vraiment désolé. Au moins, ils ont arrêté le dégénéré avant qu'il ne fasse plus de mal.
Mon père va mieux, et lui et ma mère retravaillent tous les deux maintenant. Sauf que je vais sûrement avoir besoin d'argent pour la fac, vous comprenez ?
Je comprends.
Mais c'est pas le plus urgent. Ma sœur veut aller à Chapel Ridge, mais mes parents lui ont dit que c'était pas possible, du moins pas pour l'année prochaine. Ils n'ont pas encore tout à fait les moyens.
Presque, mais c'est pas encore ça.
Et je pense que c'est un endroit comme ça qu'il lui faudrait. Elle est un peu, je sais pas, larguée.
Monsieur Ricoeur, qui avait sans aucun doute connu un grand nombre d'élèves largués, acquiesça gravement.
Mais si Tina pouvait y entrer, avec toutes ces grosses bûcheuses, surtout cette fille, Barbara Robinson, qu'elle connaissait quand on habitait dans le West Side, les choses pourraient s'arranger.
C'est très attentionné de ta part de penser à son avenir, Pete. Noble, même.
Pete ne s'était jamais vu comme quelqu'un de noble. L'idée lui fit cligner des yeux. Remarquant peut-être son embarras, M. Ricoeur reporta son attention sur la liste.
« Ok, Grissom Books aurait été ta meilleure chance du temps où Teddy Grissom était encore de ce monde, mais c'est son fils qui tient les rênes maintenant, et il est du genre pingre. Honnête, mais toujours à un dollar près. Il te dira que c'est l'époque qui veut ça. Mais c'est aussi sa nature.
Ok.
Je présume que tu es allé voir sur le net à combien était estimée une édition originale signée et en bon état du coureur.
Oui, 2 ou 3 000 $. Pas suffisant pour une année à Chapel Ridge, mais c'est un début. Ce que mon père appellerait une somme honnête. »
Monsieur Ricoeur hocha la tête. « Ça me semble correct. Teddy Junior commencerait par t'en proposer 800. Tu pourrais monter jusqu'à 1 000, mais si tu continues à pousser, il prendra la mouche et t'enverra balader. L'autre, By the Book, c'est chez Buddy Franklin. Il est OK. J'entends par là honnête. Mais Buddy n'est pas très intéressé par les romans de fiction du XXe siècle. Son truc à lui, c'est de vendre des vieilles cartes et des atlas du XVIIe siècle aux nantis de Branson Park et Sugar Heights. Mais si tu arrives à convaincre Buddy d'expertiser le livre, tu pourrais ensuite aller voir Teddy Junior chez Grissom et peut-être en tirer 1 200 $. Je ne dis pas que c'est ce qui arrivera, je dis seulement que c'est possible.
Et Andrew Hallyday Rare Editions ?
M. Ricoeur fronça les sourcils. « J'éviterais Hallyday si j'étais toi. Il a une petite boutique sur l'Acemaker Lane, la rue piétonne perpendiculaire à Lower Main Street. Pas beaucoup plus large qu'un wagon d'Amtrak, sa boutique, mais punaise, presque aussi longue qu'un pâté de maison. Il a l'air de s'en sortir plutôt bien, mais il n'est pas net. J'ai entendu dire qu'il n'était pas très regardant sur la provenance de certains objets. Tu vois de quoi je parle ?»
La transmission de propriété ?
C'est ça. Détenir un bout de papier qui dit que c'est toi le propriétaire légal de ce que tu essaies de vendre. La seule chose que je sais, c'est qu'il y a 15 ans, Hallyday a vendu un jeu d'épreuves de « Louons maintenant les grands hommes » de James Agee et qu'il s'est avéré que ces épreuves avaient été volées dans la succession de Brooke Astor, une riche petite vieille de New York avec un comptable véreux. Hallyday a présenté un reçu. Son histoire était crédible. L'enquête a été abandonnée. Mais les reçus peuvent être falsifiés, tu sais ça. Je l'éviterai.
Merci, Monsieur Ricoeur,
dit Pete, songeant que s'il se décidait, c'était d'abord chez Andrew Hallyday Rare Editions qu'il irait. Mais il devrait être très très prudent. Et si Monsieur Hallyday n'acceptait pas de transaction en espèces, il n'y aurait pas de transaction du tout. Et en aucun cas, Hallyday ne devrait connaître le nom de Pete. Un déguisement pourrait être de circonstance, bien qu'il vaille mieux ne pas trop en faire de ce côté-là.
« Y a pas de quoi, Pete. Mais je mentirais si je te disais que c'est une bonne décision. »
Pete pouvait comprendre. Lui non plus n'en était pas tellement sûr.